Nous allons écouter dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 34. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit: Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes, à pied, on accourut et on les devança. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il en fut ému, parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner quantité de choses. Reposez-vous un peu. C'est le commandement de Jésus aujourd'hui. Un commandement étonnant, inattendu, mais peut-être faut-il le prendre au sérieux. L'évangile du jour n'a que ces quatre versets. Et c'est reposant. On pourrait se dire que ce n'est qu'un passage de transition. Au début du chapitre, de ce chapitre 6, Jésus a envoyé les 12 en mission deux par deux. Et ici, ils reviennent. Ceux qui ne sont plus appelés les disciples, c'est-à-dire les apprentis, les apprenants, mais les apôtres. Autrement dit, les envoyés. Ils reviennent de mission et ils ont donc besoin de se reposer avant le prochain événement qui arrive juste après, la multiplication des pains, où là aussi les disciples sont mis à contribution en responsabilité. Oui, entre tous les événements, il y a ces épisodes de creux, de vide, de silence. Et cet espace est important, ce temps de vie privée, secrète. La liberté se niche dans cet intervalle qui ouvre une faille, un creux de désir. Or, il y a mille manières de se reposer, mille domaines où appliquer le principe du repos. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous sommes en vacances, ou nous l'avons été, ou nous allons l'être, ou bien nous n'avons pas de vacances, mais l'été est là, qui joue sa petite musique avec les bourdonnements des abeilles ou des moustiques, avec les senteurs des fleurs et des foins, avec sa chaleur et son soleil sur la peau, et puis aujourd'hui plutôt les orages et la pluie. Nous sommes enivrés d'un parfum de vacances. C'est l'occasion de sortir et de louer Dieu pour sa création. Regardez les oiseaux du ciel, dit Jésus. C'est un temps pour voir et pour contempler. Nous respirons. Dans le psaume 23, il est dit: Sur de frais herbages, il me fait coucher, près des eaux du repos, il me mène. Ici, Jésus voit la foule sans berger. Alors, il est ému aux entrailles et les enseigne. Il change ses projets. Entre les lignes, il est vraiment le bon berger, le beau berger, celui qui conduit le peuple. Il est heureux parfois d'être un mouton. Ça fait du bien. Parfois, nous pourrions envier leur vie. Nous avons beaucoup à apprendre des moutons, certes pas la stupidité, mais la simplicité, l'humilité, l'acceptation de ne pas être responsable de tout, et l'appartenance à un groupe solidaire. Le pacifisme du mouton dans un monde de loups. Laissons-nous donc simplement conduire par le vrai berger. Il nous protège et nous pouvons vivre en confiance, en harmonie, en sérénité, dans de verts pâturages et vers les eaux paisibles. Oui, prenons le temps de savourer cet espace de liberté, de nature que Dieu nous donne. Jésus et ses disciples montent dans la barque et ils voguent doucement sur l'eau. Pour une fois, la traversée est sans histoire, pas de tempête, ni personne qui se jette à l'eau. Et dans la concision du récit, entre les mots, est suggéré le grand calme qu'aucune vague ne vient agiter. La barque glisse lentement, assez lentement pour que les gens à pied puissent la devancer et qu'une grande foule vienne et soit en attente à son arrivée. Nous avons besoin de repos physique. Et voilà cette sagesse qui dit de prendre le temps d'une vraie pause, d'un bon sommeil, pour préserver notre équilibre et reconstituer nos forces. Et c'est aussi un repos psychique, loin du bruit et de la foule, dans le silence de la nature et de la création. Un temps de retrait et de recul, le temps du bilan, pour savoir où nous en sommes, où nous allons, pour nous poser les questions essentielles que nous oublions, que nous esquivons au milieu de l'action. Et Jésus est un bon psychologue, il écoute. Déjà, ce n'est plus lui qui enseigne, mais ses envoyés. Et quand ils sont de retour de mission, ils lui annoncent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. C'est eux qui parlent et non pas Jésus. Et Jésus ne les juge pas, ne donne pas des bons points à ceux qui ont chassé le plus de démons ou guéri le plus de malades. Il ne commente pas leurs résultats en nombre de conversions. Il ne critique pas leur théologie. Leur pédagogie, il ne donne pas de conseils. Il dit seulement, en réaction à ce que disent les apôtres, il dit seulement « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Ce lieu désert, dans l'évangile de Marc, nous le retrouvons seulement au premier chapitre. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Ce lieu désert est le lieu de la prière. Le lieu, dans la Bible, c'est souvent le lieu que le Seigneur choisira pour y faire demeurer son nom. Le lieu saint, le sanctuaire. Le lieu indicible et imprononçable, le lieu intime et secret. Là où réside Dieu. Et dans ce lieu, la retraite devient spirituelle. Et puis c'est le désert. Le désert par son dépouillement, par l'éclat de sa lumière, par sa chaleur accablante, par son silence, nous ramène à l'essentiel. Et le prophète Osée donne l'image d'Israël comme l'épouse de Dieu, devenue une prostituée. Dieu dit alors, « Eh bien, moi, je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » Le désert, c'est le lieu de l'amour de la jeunesse d'Israël, le lieu où Dieu s'est révélé. Je vous ai conduit pendant 40 années dans le désert. Vos vêtements ne se sont pas usés sur vous. Tes sandales ne se sont pas usées à tes pieds. Vous n'avez pas mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni boisson alcoolisée, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur votre Dieu. Après la sortie d'Égypte, la traversée du désert a été une épreuve pour Israël, mais aussi un temps de découverte, un temps de croissance et de purification. Un temps où Dieu a pris soin de son peuple au jour le jour, en lui donnant l'eau et la manne, le pain quotidien. Dans notre évangile, Marc dit « Ils n'avaient pas même le temps de manger ». Il y a là quelque chose d'étonnant, d'exagéré, une hyperbole. Qui oublierait de manger ? Les apôtres revenant de mission sont-ils comme un chercheur passionné ou comme un médecin humanitaire débordé qui saute des repas ? Ou bien sont-ils anorexiques ? Ont-ils des troubles de l'alimentation ? Sont-ils à la limite du burn-out ? Dans ce cas, oui, bien évidemment, Jésus a la sagesse de leur dire de se reposer, de manger, de restaurer leur force. Et si Jésus parlait d'abord de nourriture spirituelle ? Parfois, nous avons cette absurdité, cette folie d'oublier de nous nourrir spirituellement. Nous pensons, nous n'avons pas le temps de manger, c'est-à-dire de prier, de nous rassasier de l'amour du Christ. Car il est la vraie nourriture. Le pain qui descend du ciel, la manne dans le désert, le pain de vie et de survie, notre subsistance, notre substance. Nous nourrir du Christ, c'est un besoin vital. Alors prenons le temps de manger. Et c'est dans le lieu désert, justement, que Jésus va enseigner et nourrir 5000 hommes. Dans un autre passage, dans l'évangile selon Jean, avec la Samaritaine, Jésus dit « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous, vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus nous invite donc à prendre le temps de manger, c'est-à-dire de nous rapprocher de Dieu, de communier avec lui. Et auprès du puits de Jésus, nous serons ressourcés, nous serons rassasiés. Et il dit encore ailleurs, « Venez déjeuner. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. » Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. Ce repos, c'est laisser Dieu agir. C'est la grâce. C'est le cœur de notre foi. Laisser Dieu agir. Dieu donne ce commandement paradoxal du repos, du Shabbat, pour faire une pause. C'est une manière de s'arrêter. Et c'est un commandement facile et agréable. Vous observerez le sabbat car il est sacré pour vous. Il est pour nous. C'est un temps pour Dieu, mais également pour nous. Le sabbat est fait pour l'être humain. Deux raisons sont données. Car ici, les deux versions des 10 commandements diffèrent. Il y a deux versions des 10 commandements, donc une dans l'Exode et une dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, le Shabbat fête la sortie d'Égypte et la libération de l'esclavage. Nous sortons de la terre de nos angoisses et du stress. Nous sommes libérés du travail, qui est un service. Il y a quelque chose de beau dans le travail, mais il peut devenir aussi une servitude. Alors Dieu nous en libère. Et certes, 6 jours, nous travaillons. Il est bon d'agir, et l'action reste la réalité de notre vie. Simplement, il faut aussi savoir s'arrêter. Éviter l'activisme, éviter l'excès. Nous, protestants qui parlons de grâce, nous avons en même temps un sens de la responsabilité qui nous pousse à l'engagement. Et parfois, cette responsabilité devient un fardeau, lourd, le nôtre et pas celui du Christ. Nous culpabilisons des malheurs du monde et de notre impuissance à y remédier. Mais Christ nous rappelle sa grâce. Il nous libère de l'esclavage et nous redonne le repos du Shabbat, la paix intérieure. Je ne sauverai pas le monde, c'est lui, Jésus, qui sauve le monde. Dieu nous donne un repos moral. Et le Shabbat s'applique aussi à la terre, selon le Lévitique, et le repos de la terre invente déjà la jachère, et la permaculture, l'agriculture durable. Et la croissance économique est bonne d'un côté, mais il faut aussi savoir s'arrêter pour ne pas devenir esclave du dieu de la productivité, du productivisme qui exige des sacrifices humains. Et dans ce contexte, le repos fixe une limite qui libère. Selon l'Exode, donc dans la deuxième version des 10 commandements, une autre raison est donnée au Shabbat. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le Shabbat et en a fait un jour sacré. Le 7e jour est aussi un jour d'attente, un entre-deux, un jour de repos où, en apparence, il ne se passe rien. 7e jour, Dieu se repose. Il se retire. En apparence de sa création, il se fait discret et invisible. Le samedi saint, Jésus, est au tombeau. Il se repose. Il dort. Mais nous attendons le 8e jour, c'est-à-dire le premier jour d'une nouvelle semaine et d'une nouvelle création. C'est le dimanche, le jour dominical, c'est-à-dire le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. L'obscurité prépare le rayonnement de sa gloire. Peut-être que ce 8e jour n'est pas encore complètement arrivé, que nous sommes encore dans le temps de l'attente du 7e jour, où nous ne voyons pas encore Dieu. Mais le sommeil prépare le réveil. Et dans nos lieux déserts, le Christ vient. Il est toujours celui qui vient. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'avenir. Et le repos crée un vide, mais un vide qui se remplit d'espérance de celui qui va venir. Amen.